dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance,
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Au Portugal, nouveau soulèvement militaire. Les putschistes paraissent avoir la situation bien en main. Ils annoncent la formation d'un gouvernement provisoire et des élections libres. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Portugal. Dans un communiqué publié ce matin à 11h à Lisbonne, le commandement du mouvement des forces armées, c'est-à-dire des putschistes, annonce qu'il contrôle presque entièrement la situation et que le ministre de l'armée est entré en pourparler avec les rebelles. Et également qu'un gouvernement provisoire a été formé qui restera en fonction, disent les putschistes, jusqu'à l'organisation d'élections libres.
Le mouvement des forces armées rebelles au régime du Premier ministre Marcelo Caetano et du président de la République du Portugal, l'amiral Américo Tomás, a installé donc ce matin avant l'aube ses troupes au point stratégique de Lisbonne. Issu de l'armée de terre, le mouvement semble avoir été rejoint par la marine. Lisbonne est calme ce matin, la circulation est réduite, beaucoup de boutiques, de magasins, de banques sont restées fermées. Les rebelles, qui se sont emparés de la radio de Lisbonne, ont demandé à la population de rester chez elle. Cette fois-ci, la rébellion semble avoir les choses bien en main. Le ministre de l'Intérieur, celui de la guerre, celui de l'armée ont été arrêtés. Dans un communiqué, les rebelles ont annoncé la formation d'un gouvernement provisoire qui restera en place jusqu'à ce que tiennent les élections libres au Portugal. Les libertés démocratiques vont être rétablies. Une longue page de l'histoire du Portugal est ainsi tournée.
Nous sommes au petit matin du 25 avril 1974. De jeunes officiers et sous-officiers regroupés dans le MFA, Mouvement des Forces Armées, parviennent à renverser le régime fasciste dans la nuit du 24 au 25 avril, mettant fin à 48 longues années de dictature, dont les 13 dernières marquées par des guerres coloniales. L'espoir est immense, une vraie révolution progressiste et démocratique est en cours au sein d'une population laborieuse décidée à sortir d'une longue nuit d'interdits, de répression et de misère. Notre invité, Carlos Diniz, a vécu dans sa chair ces années de dictature ainsi que cet espoir de la révolution du 25 avril. Refusant de participer à la guerre en Angola, alors colonie portugaise, il prend le chemin de l'exil pour fuir les geôles fascistes. Il rejoint d'autres exilés en Suède. Là-bas, il apprend le coup d'État du 25 avril. Aussitôt, il prend la décision de rentrer au Portugal et de s'investir dans la Révolution. Aujourd'hui, Carlos Diniz va nous conter sa désertion, son exil et ses 19 mois d'espoir aux côtés de tout un peuple décidé à reconquérir le cours de sa propre destinée. Il nous parlera aussi des années post-révolution et de ce qu'il reste aujourd'hui au Portugal, de cette révolution des œillets, de cet espoir du 25 avril 1974. Bonjour Carlos Diniz.
Bonjour.
Alors, nous sommes aujourd'hui fin avril 2020, il y a exactement 46 ans. Le Portugal, ton pays, vivait une révolution, la révolution des œillets. Cette révolution a eu des incidences dans ta vie. Elle a été cause de certaines joies, de certaines déceptions peut-être aussi. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça, Carlos ?
Oui. J'étais étudiant en 1969, j'étais étudiant en droit à l'Université de Coimbra. Comme j'ai fait la grève de 69, j'ai perdu cette année et ensuite j'étais appelé au service militaire.
C'était quoi cette grève de 69 ?
C'était une grève d'étudiants aux examens parce que le gouvernement fasciste du moment ne laissait pas, n'a pas laissé aucune liberté aux étudiants de cette époque. Alors là, on a fait grève aux examens pour forcer le gouvernement au dialogue et tout ça.
Ce que tu appelles le gouvernement fasciste, c'était celui de Salazar et de la PIDE, c'est pas ça ?
Salazar était déjà mort. Et c'était le successeur de Salazar, Marcelo Caetano, que dans un premier moment, il a suscité beaucoup d'espoir parce qu'on pensait que c'était un libéral. Mais il n'a pas pu s'incruster, comme on peut dire, s'affirmer au pouvoir parce que les ultras de droite l'ont pas laissé, l'ont forcé à revenir sur sa politique libérale et il est revenu sur le pas de Salazar. Et alors, pas de liberté et tout ça. La police PID n'a pas été
la police politique.
La police politique est secrète. En principe, on ne connaissait pas les agents. On soupçonnait, mais on ne les connaissait pas. Bon, alors à la suite de cette grève, comme j'ai dit, j'ai perdu mon année scolaire. Je suis parti à l'étranger un petit peu. C'était la vague de 70 et tout ça, 1970. Et finalement, je me trouve dans l'armée, incorporé dans l'armée. En 1971. À ce moment-là, moi, je pensais que j'allais pas faire la guerre coloniale. Mais de toute façon, que je devais faire le sien.
Pourquoi guerre coloniale? Parce que tu faisais l'armée dans une colonie?
Non, j'étais au Portugal, mais la guerre coloniale se faisait avec les Portugais de la métropole qui devaient aller combattre dans les colonies. On avait trois fronts de guerre, Guinée, Angola et Mozambique. En ce moment-là, j'avais décidé que je ne ferais pas la guerre, mais je ferais mon service militaire. Si je restais au Portugal sans besoin de combattre les nationalistes africains, je déserterais pas. Mais si on m'obligeait à aller en Afrique, là, je déserterais.
C'est une position que tu avais réfléchi depuis un moment, que tu avais déjà en toi depuis un moment?
Oui, parce qu'en ce moment, il y avait plusieurs forces politiques de gauche qui disaient, par exemple, le Parti communiste, disait que le Parti communiste portugais, qu'on devait intégrer les forces armées et pas déserter, même aller dans les colonies et essayer de retourner les choses contre le régime dans les colonies. Mais ça, j'ai toujours cru que c'était impossible. Parce que quand on est dans un scénario de guerre, tu tues ou tu es tué. Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Alors j'ai toujours cru que ça ne serait pas possible. Ça serait pas possible. Il y avait une autre position de la Loire, par exemple, la Ligue de la lutte armée, quelque chose comme ça, qui disait aussi, oui, il faut rester au Portugal dans la clandestinité et pour un jour faire des actions contre les systèmes et tout ça. Mais pour ça, il fallait avoir une structure forte et tout ça. Et j'avais des contacts dans la Loire, mais les contacts que j'avais dans la Loire, j'avais pas confiance du tout. C'était quelqu'un qui venait, qui se présentait par exemple à Coimbra avec une voiture sport et tout ça, bien habillé et tout ça. Et moi, je suis d'origine paysanne et tout ça, je me méfiais de ce genre de gens. C'était pas mon genre et je sentais que je pourrais pas avoir confiance en lui. Alors finalement, je me décide de déserter tout seul.
Quand tu décides de déserter, tu es engagé, toi, politiquement, dans un mouvement ou non?
C'est-à-dire que j'étais engagé à gauche, mais je militais pour aucun parti, aucun mouvement strictement parlant. Mais j'avais mes positions de gauche. Alors, je pense que c'est très dangereux. D'ailleurs, c'est impossible d'aller à la guerre, c'est impossible de rester dans la clandestinité au Portugal, alors je me décide de déserter. Mais par mes propres moyens.
Tout seul ou avec d'autres?
Tout seul. Parce que j'étais dans un corps d'élite de l'armée, les opérations spéciales, et c'était tous des jeunes, pas tous politisés, et je ne pourrais pas faire confiance, je ne pourrais pas m'ouvrir comme ça parce que je risquais gros. Alors je décide, j'étais jeune, j'étais formé avec cet esprit militaire et tout ça, je me décide de prendre un train vers le sud, arriver à Elva, c'est une ville près de la frontière espagnole, et passer le soir à Badajoz. Bien sûr, ouais.
Et passer la frontière sans problème, personne ne t'arrêterait.
Sans problème. Et passer la nuit par les champs et tout ça. J'ai passé toute la journée à Elbe parce qu'il y avait une concentration de jeunes qui venaient faire des épreuves pour l'armée et tout ça. Et alors, comme c'était l'habitude de Portugal, ces choses n'étaient pas trop surveillées. Enfin, c'était un petit peu, on entrait dans les casernes et tout ça. Moi, je suis entré dans la caserne avec tous ces jeunes gars qui venaient faire des examens. Et j'ai profité pour passer de bonnes heures à voir les champs et tout ça, la frontière de l'autre côté, comment on arrivait et tout ça. J'ai même essayé en parlant avec les soldats, je leur ai demandé, est-ce que vous allez en Espagne de temps en temps, comme ça, acheter des caramels, un truc comme ça, voir les filles, tout ça. Ils disaient, oui, on va. Alors, est-ce que cette nuit, ça vous irait d'aller aussi? Parce que moi aussi, j'aurais envie de promener un petit peu en Espagne, acheter des bonbons, des trucs comme ça, etc. Mais malheureusement, il n'y avait personne pour ces jours-là. Alors, j'ai dû continuer mon affaire tout seul. J'ai pris un taxi pour sortir d'Elvache parce qu'Elvache, c'est une ville très surveillée. Il n'y a que deux sorties seulement de la ville. Deux portes anciennes, une forteresse ancienne, type Vauban, tout ça. Et le taxiste, il me demande où est-ce que je voulais aller. Et tout ça. Et moi, je ne savais pas. Je dis, écoutez, je viens visiter un ami, alors qui est votre ami? Je dis, ouais, c'est un type que j'ai connu à l'armée, mais je ne me rappelle plus le nom, mais je sais où il habite. Alors, il me dépose, j'attends un petit moment et je commence à traverser les champs. Ça, c'est à peu près 15 km d'Elvas à Badajoz. La nuit, j'ai dû traverser un fleuve. C'est le Caille, un petit fleuve qui avait de l'eau en ce moment parce qu'on était au mois de mai. Mais il y avait de l'eau et tout ça. Je traverse, j'arrive en Espagne, je prends un train pour Madrid tout de suite. J'avais un problème parce que paraissait que ce jour-là, tout le monde voulait parler avec moi. Et moi, je voulais passer le plus discrètement possible. Et tout ça. Mais tout le monde était sympathique et tout ça. Okay.
C'était l'Espagne de Franco.
Oui, l'Espagne de Franco. J'avais un passeport parce que j'avais déjà un passeport, mais je ne pouvais pas l'utiliser pour passer, pour sortir de Portugal. Mais après, je pense, ouais, avec ce passeport, je peux passer en France et gagner l'Europe. J'arrive à Badajoz, comme je disais, Badajoz-Madrid. Après, je prends un train pour Paris. Les choses se passent bien. Je descends à Paris. Je cherche les contacts que j'avais avec des Portugais qui étaient à Paris.
Qui aussi avaient déserté.
Qui avaient déserté ou qui étaient sortis avant d'être engagés dans la vie militaire. Et tout le monde me dit que c'est très difficile en France. La France n'aide pas les réfugiés politiques, les déserteurs portugais et tout ça. Ça, c'est très difficile en ce moment et tout ça. Alors, je prends le train jusqu'à en Belgique. Pareil, le monde me dit là. Et quelqu'un me dit, écoute, pars en Suède parce que là, il y a un comité des déserteurs Malmö. Et en ce moment, c'est la Suède, le seul pays qui vraiment nous reçoit. Et tout ça. Alors, je suis parti en Suède.
Un poème de Jonas Negaya, La Balle. Ça parle de la guerre coloniale en Angola. Et ça raconte qu'un jour, en Angola, il y a des soldats portugais qui jouent le football avec une balle. Et personne ne s'aperçoit que cette balle, c'est la tête d'un noir. Brilha o sol na poeira incendiada, soldados jogam futebol com a bola que pula sangrando no chão de Angola. Rola sangrento uma bola no chão de Angola.
chão de Angola. Ninguém distingue na bola, ensopada na areia, empastada na erva que gira no solo. A cabeça de um negro sangrando que rola no chão de Angola. Rola sangrento uma bola no chão de Angola. Rola sangrento uma bola no chão.
Dissonance évoque la révolution des œillets le 25 avril 1974 au Portugal avec Carlos Diniz.
Alors, je suis parti en Suède. J'ai entré en contact avec le comité des déserteurs portugais de Lund, Malmö. Et je suis arrivé un samedi, je crois, et lundi, on est allé à la police, et j'ai dû raconter mon histoire, je ne pouvais pas dire que je m'étais arrêté en France ou en Belgique, parce que c'était une question des Suédois qu'il devait être le premier choix. Alors, j'ai raconté à la police que je suis venu directement. Je me suis arrêté à Paris pour dormir et tout ça, mais que je suis venu directement en Suède. OK, on m'a accepté, on m'a donné des papiers qu'il fallait, un petit peu d'argent pour m'installer, des leçons de suédois et tout ça, et j'ai commencé à vivre en Suède. Et bon, j'ai étudié un petit peu de suédois. Après, je suis allé travailler dans l'usine Volvo un moment. J'ai fait des petits jobs là, comme ça pour gagner la vie. Et finalement, arrive le 25 avril de 1974.
Et juste avant, alors, est-ce que c'était une communauté importante, cette communauté des déserteurs portugais de Suède?
Oui, c'était, il y avait beaucoup de gens. Ouais. Je ne pourrais pas dire combien, mais disons que les comités en soi ont une trentaine de personnes, quelque chose comme ça.
Et est-ce que vous vous réunissiez pour débattre de la situation politique ou de l'avenir?
Oui, beaucoup. Et on essayait d'intégrer les associations d'immigrés portugais à Malmö. On manifestait et tout ça. On allait même jusqu'à Stockholm, à Copenhague et tout ça, quand il y avait des manifestations contre la guerre coloniale portugaise. On donnait tout l'appui possible au mouvement de libération des colonies portugaises et tout ça, aussi. Et quand le 25 avril arrive, en premier moment, on savait pas qu'est-ce que ça allait se passer parce que.
Et est-ce que tu peux nous dire, pour les auditeurs, qu'est-ce qui s'est passé le 25 avril 1974 au Portugal?
Le 25 avril, l'armée, certains capitaines de l'armée, jeunes capitaines de l'armée, se soulèvent, ils marchent sur Lisbonne. C'était déjà la deuxième essai de coup d'État. Mais cette fois, ça a bien marché.
Ah, parce qu'ils se soulevaient pour faire un coup d'État, carrément.
Un coup d'État, oui. Pour finir avec la guerre coloniale. C'était l'objectif numéro un, c'est finir avec la guerre coloniale. Ce mouvement a réussi. Pourquoi? Parce que d'abord, le courage des militaires, des jeunes militaires, des capitaines surtout, et surtout parce que tout de suite, aux premières heures du coup d'État, la population adhère. Et le mouvement des forces armées avait demandé à la population de Lisbonne de ne pas sortir, de rester à la maison, mais personne n'a obéi. Tout le monde est sorti. Tout le monde a commencé à parler avec les soldats, les militaires qui étaient dans la rue, à donner des fleurs. Et voilà, le loyer rouge, ça vient de là. Une femme qui allait travailler ce jour-là, elle avait acheté, parce qu'elle travaillait dans un restaurant, quelque chose comme ça, ils avaient acheté, son patron avait acheté plusieurs dizaines de loyers rouges pour donner aux clients.
Oui.
Ouais. Et comme il y avait beaucoup de mouvements dans les rues et tout ça, le patron dit non, aujourd'hui on ne travaille pas, allez-y à la maison et tout ça, et prenez ses oeillets parce que demain ils ne seront pas beaux. Alors elle sort de son lieu de travail avec les oeillets et elle rencontre les soldats. Il y a un soldat qui lui demande un oeillet, il le met dans les fusils, comme ça. Et les autres ont trouvé ça marrant, enfin, suggestif, ils ont fait la même chose. Et alors, d'un moment à l'autre, c'est devenu un petit peu le symbole de la révolution. Une révolution pour finir avec une guerre. Bien sûr que le gouvernement, Marcelo Caetano, a réagi, il voulait pas céder, surtout il voulait passer le pouvoir à un militaire, à un haut gradé, un général, parce qu'il disait qu'il ne laissait pas le pouvoir dans la rue, aux bas militaires, au peuple, quelque chose comme ça. Mais les militaires, surtout le capitaine Salgueiro Maia, il a tenu firme devant le couvent de Carmo. Et non, il a dit que c'était pas négociable, ça, cette position. Et finalement, le premier ministre, Marcelo Caetano, a dû quitter cette caserne de Carmo. Et parti à Madère, et le lendemain, il est parti au Brésil. Et le régime était par terre. Bien sûr que les militaires que Marcelo Caetano avait suggéré, c'était au Costa Gomes, au Spínola, le général Spínola. Le général Spínola était très populaire parce qu'il était le commandant en Guinée, et c'était pas vraiment un démocrate. Mais il a profité de la situation pour représenter le mouvement des militaires. Et pendant un moment, il a été élu, je me rappelle plus comment, le président du conseil des militaires et tout ça, du conseil des militaires. Et la chose a évolué. Bien sûr qu'après, il y a eu tous les problèmes qui suivent une révolution. C'est-à-dire les idéalistes qui font la révolution et après les opportunistes qui prennent le pouvoir et qui s'installent. Et finalement, il a une dérive à droite avec le général Spin. Ah, mais entre-temps, il faut le dire que les prisonniers politiques sont libérés. Pas parce que les régimes, enfin, il ne voulait pas les libérer, mais le peuple s'est adressé aux prisons militaires, politiques, et ils ont été libérés. Ensuite, ils ont décrété une amnistie à tous les déserteurs. Ouais. Et cette amnistie, vraiment, a commencé à nous donner confiance. Parce que, pardon, parce qu'on était en Suède et on avait reçu quelques mois avant les réfugiés du Chili, du général Pinochet. Pinochet avait occupé le pouvoir, a tué des milliers de personnes, comme tout le monde sait, et le Chili était un pays d'accueil des Brésiliens et d'autres pays, d'autres démocrates qui fouillaient ses propres dictatures. Et ils sont arrivés en Suède, très déprimés, certains malades et tout ça. Et nous, on avait peur que la révolution portugaise soit une révolution de la même nature. C'est pour ça qu'on a attendu un petit moment pour voir qu'est-ce que ça allait sortir là. Mais on a vite compris que le peuple adhérait et que ce n'était pas un coup d'État comme au Chili.
Et toi, concrètement, comment ça s'est passé le 25 avril? Est-ce que tu le pressentais?
Je ne les pressentais pas. Pour être sincère, on pensait que le régime ne tomberait jamais. On commençait à penser en termes de ne pas vivre au Portugal pendant longtemps. Bien sûr qu'on a su ça par la radio. Les Portugais ont commencé tout de suite, le téléphone a fonctionné et tout ça. Mais on avait cette appréhension. On va laisser les choses jusqu'à la fin, à la fin de la journée et tout ça, pour savoir comment. Et le lendemain, on était déjà sûr pour retourner au Portugal.
Oh. aux muses ma complice, petite sœur d'exil. Tu as les cicatrices d'un 21 avril. Mais ne sois pas sévère pour ceux qui t'ont déçu de n'avoir rien pu faire ou de n'avoir jamais su. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. On crucifie l'Espagne, on torture au Chili. La guerre du Vietnam continue dans l'oubli. Aux quatre coins du monde, des frères ennemis s'expliquent par les bombes, par la fureur et le bruit. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. Pour tous les camarades pourchassés dans les villes, enfermés dans les stades, déportés dans les îles. Ô muse, ma compagne, ne vois-tu rien venir? Je vois comme une flamme qui éclaire l'avenir. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. Ô muse de meu fado, ô minha mais gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não sei tão ingrata, não esquece quem te amou. Em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Que de bouche à oreille s'envole ta chanson. Car enfin le soleil réchauffe les pétales de mille fleurs vermeilles en avril au Portugal. Et cette fleur nouvelle qui fleurit au Portugal, c'est peut-être la fin d'un empire colonial. Et cette fleur nouvelle qui fleurit au Portugal, c'est peut-être la fin.
Effectivement, on s'est présenté. Et moi, je me suis présenté à la caserne où j'étais avant de déserter. Ils m'ont accepté sans problème. Mais quelque temps après, j'étais à nouveau mobilisé pour l'Angola.
Aïe. Donc tu as dû revenir, tu devais revenir en Angola.
En Angola, oui. J'étais déjà marié, j'avais une fille à ce moment-là, et je me suis posé le problème si je devais déserter encore une fois. Mais j'ai pesé la guerre était terminée. C'était seulement une question de mobilisation de l'armée qui était aux colonies, de renvoi des choses, enfin de préparer les choses pour les indépendances, ou pour la transition d'un pouvoir. Parce qu'à ce moment-là, on ne parlait pas trop d'indépendance des colonies, mais une transition de pouvoir au moins. Les choses étaient encore très, très floues. Mais je suis parti en Angola. J'ai passé 3 mois et demi en Angola, mais toujours dans des services bureaucratiques et tout ça. J'avais pratiquement rien à faire et surtout, on n'avait pas un scénario de guerre. Et tout de suite, 3 jours avant de revenir, La guerre a éclaté à nouveau à Luanda.
La guerre entre les différentes factions angolaises.
Différentes factions. Et les gens de l'UNITA et d'un autre mouvement aussi de droite, d'Alden Robert, a été appuyé par l'Afrique du Sud et tout ça. Et les MPLA, le mouvement plus à gauche, appuyé par l'Union soviétique et tout ça, a été en grande difficulté quand les Cubains débarquent à Luanda, et alors ça, ils ont gagné la guerre. Mais j'étais déjà au Portugal. En ce moment-là, les soldats au Portugal avaient le mouvement des SUV, des soldats unis, vaincront. Un mouvement très fort dans les casernes. Et grandes manifestations et tout ça, le pouvoir au peuple et tout ça.
Dissonance évoque la révolution des œillets le 25 avril 1974 au Portugal avec Carlos Diniz.
Oui, parce qu'après l'étape de d'abord de lutter contre pour l'arrêt de la guerre, il n'y a pas eu une seconde étape qui était la recherche de la démocratie.
Oui, oui, oui. Et là, il y a eu un combat aussi parce qu'il y avait des gens qui disaient que le pouvoir devait être au peuple, pour simplement la liberté totale, et d'autres qui disaient ok, calme. Voilà. Et finalement, il y a eu une sorte de coup d'État le 25 novembre de 1975. Et là, c'était la droite modérée qui a pris le pouvoir. Et on dit qu'on a évité une guerre civile et qu'on a évité beaucoup de combats. On pensait à un moment que les choses allaient devenir un peu beaucoup sur la droite, mais finalement, le général Yang, on n'avait pas confiance en lui, mais il s'est révélé une personne digne et un démocrate, et les choses se sont rétablies pour les élections à l'Assemblée constituante et pour les partis, tout ça. Les partis socialistes, si je ne me trompe pas, a gagné les premières élections avec Mario Soares. Mario Soares est devenu premier ministre. Enfin, et les choses ont commencé à se normaliser.
À se stabiliser. Mais quelle était la vie? Parce qu'ici, en France, je me rappelle de ces années-là où j'avais des copains qui partaient au Portugal parce que c'était la révolution qui était arrivée en Europe, dans ce coin d'Europe. Mais quelle était la réalité pour les gens des campagnes entre ce 25 avril 1974 et ce mois de novembre 1975?
C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de campagnes. À la campagne d'alphabétisation, de culture et tout ça, diffusion culturelle et tout ça. Beaucoup de chanteurs, beaucoup de personnes qui se sont engagées à apprendre à lire aux gens et tout ça. On a ouvert des routes dans les petits villages. On a conduit l'eau et l'électricité à des petits villages. On a fait beaucoup de choses. L'armée a contribué à ça. Mais finalement, le peuple à la campagne avait une éducation de base de droite. Ils avaient passé 48 ans sous la dictature. Et au moment des élections, ils avaient toujours peur. Et l'Église catholique a fait aussi sa campagne contre la gauche. Et finalement, quand ils ont voté plus à droite, au centre, qu'ils ne reconnaissaient même pas le travail qui a été fait pour eux. Mais c'est comme ça parce que les gens ne changent pas de mentalité d'un moment à l'autre. On a commencé à voir que tout ce qu'on entendait de la révolution, ça ne serait pas possible, ça ne se réalisait pas, mais le pays a entré dans une certaine paix, un certain ordre et tout ça, qui s'est maintenu avec des hauts et des bas jusqu'à aujourd'hui. Mais on ne peut pas dire que toutes les conquêtes, tous les souhaits qu'on avait au moment du 25 avril se sont accomplis. Loin de ça.
Há fogo enorme no jardim da guerra, e os homens semeiam fagulhas da terra.
abrem grande a boca quando são bem pagos, soltam labaredas pela boca cariada, fogo que não arde, nem queima, nem nada. Senhores importantes fazem piqueniques, churrascam o frango no ardor dos despiques, engolem sangria dos sangues fanados, enxugam os beiços na pele dos queimados.
E aujourd'hui surtout on voit que le néolibéralisme a envahi le Portugal en force. Et qu'aujourd'hui, les forces qui commandent sont les forces du capital. Bien sûr qu'en ce moment, on bénéficie d'un climat de paix sociale, entre guillemets, parce que aussi bien les premiers ministres que le président de la République sont des politiciens optimistes.
De droite ou de gauche?
Le Premier ministre est socialiste, on pourrait considérer centre-gauche. Le président de la République est de droite, une droite modérée, un centre-droit, droite, mais très ouvert. Il faut le dire que c'est quelqu'un de très ouvert au dialogue et tout ça. Et après 4 ans d'un gouvernement d'austérité qui a bloqué les carrières, qui a instauré des impôts terribles et tout ça, on peut dire que les Portugais ont gagné un certain optimisme, un certain espoir dans l'avenir. En ce moment, à Lisbonne, par exemple, avec l'essor du tourisme et tout ça, on peut dire qu'on a créé beaucoup de postes de travail, tout ça, et que les gens se sentent mieux. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Un long chemin à parcourir. Et à l'horizon, on ne voit pas la solution pour certaines choses.
Quand tu dis un long chemin à parcourir, ce serait un long chemin à parcourir pour essayer de retrouver ce qui a été l'éclair d'espoir qui a été donné par la Révolution, par
ouais.
exemple, un gouvernement populaire.
Oui, c'est ça. Finalement, on a beaucoup souffert avec la crise de 2008. Parce que aussi bien l'Union européenne, l'Europe, comme les FMI ont imposé des conditions terribles, drastiques au Portugal. Le gouvernement de cette époque, il est allé encore plus loin que la Troïka voulait. Et alors, ça fait beaucoup de mal au Portugal. Ils ont vendu les plus grandes entreprises publiques à des prix de solde et à des investisseurs qui n'étaient pas dans les domaines de ces investissements. Il faut dire que c'est une situation grave. Mais il faut avouer que le gouvernement a réussi quelques conquêtes. D'ailleurs, ce gouvernement, il a été possible parce que le Parti socialiste a fait une coalition avec le Parti communiste et le bloc d'esquerda, le bloc de gauche. Et c'est une coalition où ils ne sont pas au gouvernement, mais ils se sont... Et ils ont promis d'appuyer le gouvernement à l'Assemblée. Et ça a permis le Premier ministre António Costa de gouverner. Et il va bientôt finir sa législature. Personne ne croyait à ça. C'était un scandale pour la droite. Et même beaucoup de secteurs de la gauche ne croyaient pas que ces forces un peu antagoniques pouvaient constituer un bloc pour gouverner. Mais c'est fait. Et... Le Parti socialiste a augmenté sa votation pour les élections européennes. Le bloc de esquerda a augmenté aussi. Le Parti communiste a baissé un peu. Mais la droite, en ce moment, au Portugal, est dérotée.
Et le Portugal est un des rares, pour ne pas dire le seul pays, où il n'y a pas de progression, en tout cas dans les élections, des forces nationalistes d'extrême droite.
Ouais.
Comment tu expliques ça?
Ouais. Je crois, j'explique parce que, enfin, que je sais pas, c'est difficile d'expliquer, mais peut-être que les Portugais n'aiment pas beaucoup les extrêmes, je sais pas. Peut-être que, qu'ils, de toute façon, ils n'adhèrent pas aux thèses extrémistes de droite. Peut-être qu'ils sont fatigués, ils ont encore le souvenir de 48 ans de dictature. Peut-être que ce mouvement, en tout cas, ils n'ont pas d'implantation, implantation populaire, c'est vrai. Et ils ont commis certaines actions isolées qui ont beaucoup déplu à tout le monde. Et peut-être que, comme le Portugal a un président aussi optimiste, un premier ministre optimiste et tout ça, ça donne, ça réduit l'amertume des gens face à la vie qui est pas encore comme ils le souhaitent. Enfin, c'est très difficile d'expliquer, mais c'est le fait que l'extrême droite n'a pas poussé, n'a pas grandi au Portugal.
Quando me sinto só, só como tu me deixaste, mas só que um vagabundo num banco de jardim. É quando tenho dó de mim e por contraste eu tenho ódio ao mundo que nos separa assim. É quando tenho dó de mim e por contraste eu tenho ódio ao mundo que nos separa assim. Quando me sinto só, sabe-me a pouco afago, lamento de quem chora a sua triste mágoa, rastejando no pó meu coração cansado. Lembro uma velha nora morrendo à sede de água, rastejando no pó meu coração cansado. Lembrou uma velha nora morrendo à sede de água. Para que não faça um pouco para a cor não gritar, a quem pergunta minto, não quero que tenham dó louco. Eu chego a desejar que sintas o que sinto quando me sinto só.
Dissonance évoque la révolution des œillets le 25 avril 1974 au Portugal avec Carlos Diniz.
Carlos, qu'est-ce qui reste aujourd'hui du 25 avril 1974? Est-ce qu'on en parle dans les écoles? Est-ce qu'on en parle aux enfants? Est-ce que ça reste juste un sujet de discussion des anciens? Est-ce qu'il y a des musées? Est-ce que c'est parti dans les oubliettes?
Oui, et tout ça, il y a des musées, on parle dans les écoles, oui. Les profs d'histoire et tout ça organisent régulièrement des expositions sur le 25 avril, ils parlent et tout ça. Mais comme tout dans la vie en ce moment, les gens retiennent ce qu'ils veulent. On parle à la télévision, il y a des musées et tout ça. Mais les gens, bien sûr, c'est beaucoup plus facile de regarder un match de foot, un feuilleton à la télévision, et sympathiser beaucoup plus avec ces choses que les gens qui font réfléchir et tout ça. Moi, personnellement, j'entends beaucoup de gens qui disent « Ah, on ne fait pas assez. » Moi, je crois qu'on fait, le suffisant. Mais il faut que les gens veulent aussi s'occuper, penser à ça. Les jeunes, ils disent « Ouais, mais le 25 avril, c'était quoi? On n'était pas encore nés. » OK, on n'était pas encore, ils n'étaient pas encore nés, mais les journaux parlent, la radio parle, la télévision parle, les profs à l'école parlent. Il y a des livres et tout ça. S'ils veulent savoir, ils peuvent savoir.
Et est-ce que l'armée portugaise est auréolée de cet épisode du 25 avril? Est-ce qu'encore elle est aimée par les gens du peuple, l'armée d'aujourd'hui?
On peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas d'armée, parce que le service militaire n'est pas obligatoire maintenant. Et alors, les jeunes qui cherchent les services militaires, c'est parce qu'ils aiment les activités militaires, ils aiment le sport et tout ça, ou ils cherchent une sécurité de vie. C'est quand même... mais même cette sécurité de vie, c'est pas pleinement, parce qu'ils n'ont que des contrats de 5-6 ans, et après, ils doivent renouveler, ou sortir et tout ça. Mais il n'y a pas beaucoup de monde dans l'armée en ce moment. Il n'y a pas de guerre. On a certains corps qui aident l'Union, ONU, la OTAN aussi, mais c'est des corps spécialisés et tout ça, mais ce n'est pas représentatif. On ne peut pas dire que... Moi, à mon avis, je crois que la population en général ne sait pas beaucoup ce que se passe à l'armée. D'accord. Et que... C'est pas important comme elle était, bien sûr.
Et que sont devenus aujourd'hui ces héros du 25 avril, ces jeunes capitaines qui avaient pris ce tournant de l'histoire? Est-ce qu'ils sont retournés vivre dans la normalité? On n'entend plus parler. Certains sont devenus, ont fait de la politique, de l'opportunisme. D'autres n'auraient pas été en prison.
Oui, Otelo Saravet Carvalho, c'était le stratège du 25 avril, a passé quelque temps en prison. Bon, disons en vérité que c'est pas pour avoir entré dans le 25 avril. C'est parce que ensuite il a intégré un groupe qui prêchait la lutte armée. Et ils ont fait quelques actions. Il y a eu même des morts et tout ça, pas beaucoup, mais il y a eu des morts. Et c'est une action de guérillas. Et il a été condamné pour ça. Mais il y a une certaine frustration dans certains militaires qui ont été écartés. On veut d'autres collègues de carrière qui n'étaient pas si engagés et montés dans la carrière et tout ça. Et eux, ils sont des gens dans les 80 ans déjà. Ils arrivent aux 80 ans, 75, 80 ans. Ils sont des gens qui se sentent vieux à un moment, même s'ils vont aux manifestations et tout ça. Mais ils se sentent un peu frustrés avec les choses. Ça, c'est vrai, on doit le dire. Mais ils ne sont pas en prison en ce moment. Ça, c'est vrai. Mais ils manifestent dans les associations. Il y a une association des militaires de 25 avril. Et les choses continuent. Aujourd'hui, peut-être que la lutte doit être plutôt contre le néolibéralisme, le capital qui salit tout. L'autre jour, même un de ces jours, j'ai vu un dirigeant de droite dire que vraiment la droite à oublier ça et à laisser et à oublier le la composition humaine et sociale de la politique et à céder tout le pouvoir au groupe économique. Et que ça, c'est vraiment le drame d'aujourd'hui.
Carlos, tu es un Portugais optimiste ou pessimiste pour l'avenir ?
Bon, c'est, je pense, même pas seulement en politique, mais si je pense aux altérations climatiques et tout ça, je ne peux pas être optimiste, bien sûr. J'ai des petites filles et tout ça, et vraiment, je pense que je ne sais pas quelle sera ça. Je suis optimiste dans un sens que je pense que l'homme assez souvent trouve les moyens de s'en sortir des crises. Mais peut-être ça, c'est peut-être un excès d'optimisme. Des fois, je pense que c'est peut-être un excès d'optimisme et que peut-être on ne sortira pas de cette situation. Alors là, je suis optimiste, mais en même temps très pessimiste. La question politique, je crois que par le moment, elle n'est pas désespérée, enfin, mais le côté économique, c'est pas brillant. On a déjà le gouvernement, l'État portugais a déjà aidé les banques pour éviter la chute de ces banques. Elle a déjà dépensé plus de 27 milliards d'euros. C'est colossal pour un pays comme le Portugal, qui a une dette publique énorme, et qui a encore beaucoup de problèmes. On parle de la convergence avec l'Europe et elle est loin d'être réalisée. Et il ne faut pas oublier que le Portugal continue avec un salaire minimum de 630 euros, si je ne me trompe pas, très bas en comparaison avec les autres pays d'Europe, et que la vie est très difficile pour beaucoup de monde. Très difficile.
D'où le peuple portugais qui est un peuple de découvreurs, de marins, de gens qui ont émigré, de gens qui ont connu la dictature, de gens qui ont fait une révolution, qui maintenant arrivent à avoir une paix sociale malgré cette crise économique, mais qui semble un peuple serein. D'où tire-t-il sa force ?
C'est un peuple très travailleur et qui supporte beaucoup de choses. Beaucoup de gens ont dit que la guerre coloniale portugaise, ça a été possible qu'avec les Portugais. Parce que les Portugais avaient une résistance. Il faut dire que beaucoup de jeunes qui ont fait, des jeunes du peuple sans études et tout ça, sans instruction spéciale qu'ont fait la guerre coloniale, ils arrivaient à Lisbonne démobilisés des colonies, deux semaines, ou une semaine, ou deux semaines après, ils étaient en France, et clandestinement pour travailler et tout ça. Alors, ils se sont sacrifiés pour un pays qui n'a pas pu l'offrir les conditions de rester au pays. Ça, c'était dramatique. Mais, comme je disais, c'est parce que ce peuple a une force de sacrifice énorme, énorme, qu'on ne sait pas expliquer comment ils sont capables de résister à tant de pression et tout ça. Mais vraiment, je crois que très peu de peuples en Europe allaient supporter tant de sacrifices comme les Portugais ont senti dans la peau.
Quando la vila morena, terra de fraternidade.
Un peuple de résistance, alors. Ouais. Et justement, on va finir par une chanson. L'émission va terminer par une chanson qu'ici, en France, on associe à la révolution des œillets. Là, cette chanson qui s'appelle Grandola Vila Morena. Tu peux nous la présenter ?
Enfin, c'est une chanson de Zeca Afonso. Zeca Afonso, il est déjà mort. Il est mort il y a quelques années. C'était un auteur, compositeur et chanteur. très populaire, très créatif et très révolutionnaire aussi. Il avait une conscience politique incroyable. Et c'était quelqu'un de très désintéressé. Quand il fallait faire les choses, il ne pensait pas deux fois. S'il devait aller chanter encore un de ces jours, j'ai écouté quelqu'un qui parlait de cette époque où ils arrivaient, Zac Afonso, avec un groupe de copains qui chantaient souvent 5-6 fois par semaine. Sans gagner, sans rien, on lui payait le transport. C'était quelqu'un d'une force, d'un sacrifice incroyable, d'un idéalisme toute épreuve, qui était connu déjà à l'époque de 25 avril. Il avait des chansons très connues qui passaient clandestinement. Elles étaient publiées et généralement interdites de vendre, mais les éditeurs, les magasins connaissaient déjà les clients et ils les vendaient clandestinement. Et alors les disques se vendaient de la même façon. Et ça a eu une force incroyable parce qu'il faisait appel au collectivisme, au peuple uni et tout ça. C'était pas la chanson qui a déclenché le signal pour les forces armées avancées, mais c'était la chanson du premier jour de la révolution. Ouais.
On va l'écouter. Merci beaucoup, Carlos, et bon courage.
De rien, merci.
Cette émission est rediffusée sur les antennes de Radio Centrafrique
mercredi 29 avril à 8h et samedi 2 mai à 16h.
Vous pouvez la télécharger à votre guise en allant sur le site de Radio Centrafrique, page Dissonance.
Et aussi sur celui de dissonance.ovh.
Salut
et fraternité.